Vous écoutez Des campagnes en mouvement, cinquième saison du podcast sur les ruralités imaginé et réalisé par les étudiants du master journalisme de l'université Bourgogne-Europe. Cette saison documente des isolements fabriqués par des politiques publiques qui mettent en mouvement par la contrainte. Prendre la voiture plutôt que le train parce que la petite ligne est fermée ou que le TGV traverse sans s'arrêter. Devoir aller au bistrot et à la boulangerie du village d'à côté. Monter à bord d'un van pour parler santé psychique et violence sexuelle dans des milieux où tout le monde se connaît. Apprendre à se servir d'un smartphone pour accéder à ses droits. Elle rend compte aussi de mouvements nés de trajectoires individuelles. Des néo-ruraux, parfois néerlandais, toujours CSP+, qui s'installent et recomposent des territoires. Des mouvements qui, parfois, invitent à une nostalgie du temps d'avant, tout aussi fabriqué. Dans une boîte de nuit, on esquisse le portrait d'une jeunesse rurale qui danse sur des années 80 un peu fantasmées, bien aidée par ses aînés qui entretiennent la flamme d'un passé idéalisé. Le mouvement, les remous, c'est aussi un vote RN qui s'assume et des amitiés qui perdurent malgré tout, en se parlant, ou plutôt en faisant ensemble. Ce sont toutes ces facettes du mouvement dans les campagnes de Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté que les étudiantes et étudiants ont choisi de partager. Bonne écoute.
Il est là, le van.
Oh, oui.
C'est vrai qu'il est jeune, il est vif, on le voit bien.
Ouais. Libérer la parole intime, un podcast de Minéa Alimaïstorovic et Manon Forêt.
C'est gelé. Ah oui, d'accord.
Ce qu'on fait en général, c'est qu'on retourne ce siège-là, le siège droit. Et là, il y a une petite table qu'on tire et qu'on met au milieu. Comme ça, si il y a une personne qui a envie d'être reçue dans un espace confidentiel, plus intime, plus cocooning, ben, on peut l'accueillir à l'intérieur, discuter avec elle.
Dans les villages, ce petit van jaune attire tous les regards. Pourtant, il ne vend rien, il écoute. Des centres de loisirs aux places de village, des marchés du matin au festival d'été ou encore au Resto du Cœur, le van trace sa route et sillonne la Bourgogne-Franche-Comté. C'est le projet Nina et Simone. Mais le fait d'aller dans les villages n'est pas un hasard.
Il y a quelque temps, Minéa m'a justement conseillé un livre du sociologue français Nicolas Renahi, Les gars du coin, qui parle des relations à la campagne. Et ça m'a fait plutôt sourire parce qu'il explique quelque chose d'assez simple. Dans les villages, les gens se connaissent dans plusieurs aspects de leur vie. On peut être à la fois voisin, collègue, parent d'élève. Et du coup, l'anonymat existe beaucoup moins qu'en ville. Et ça m'a fait penser à mon enfance, parce que j'ai grandi dans un tout petit village, et là-bas, il y a des choses dont on ne parle juste pas. Les sujets un peu sensibles, les problèmes personnels, les histoires de famille, tout ça, ça reste à la maison, chez soi. Ce n'est pas forcément parce que les gens jugent, c'est surtout parce qu'on sait très bien que si on raconte quelque chose à quelqu'un, il y a de fortes chances pour que tout le village soit au courant, et assez vite. Donc, les sujets tabous, on les évite. Parce que tu n'as pas forcément envie que ta voisine, la boulangère ou même ton ancien prof de sport soit au courant que t'as découché la veille. On apprend donc vite à garder certaines choses pour soi et il y a une espèce de pudeur générale.
La sexualité, les violences ou encore la santé mentale sont donc sûrement très peu abordées dans le cadre des relations qu'on entretient dans un village. On a donc essayé de se renseigner un peu plus sur le sujet et on est tombé sur une affiche qui parle de ce fameux van jaune proposant justement de briser les silences.
Ah oui, l'affiche est plus grande. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. Il fait chaud chez vous.
C'est vrai.
On est à Besançon, au centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Bourgogne-Franche-Comté, plus communément appelé le CIDFF. Une équipe 100% féminine nous a accueillis dans leur petit local qu'elle partage à Troyes. Pour nous expliquer en quoi consiste le projet Nina et Simone.
Bah, y avait une forte envie d'aller vers, en fait, dans les zones qui étaient très éloignées de tous les services publics, les zones rurales et puis les quartiers politiques de la ville, les QPV.
Julie Hamdan est coordinatrice régionale du CIDFF de Bourgogne-Franche-Comté depuis 2021.
Donc on cherchait des moyens, en fait, de toucher ces populations-là et on s'était demandé, bah, comment on pouvait faire. Et on voulait expérimenter ce dispositif de van qui était un dispositif mobile qui permettait d'aller justement au plus près de ces personnes pour apporter l'information. Donc c'est vrai qu'au départ, le van, on avait envie de le déployer un maximum dans toute la région et de faire des permanences ponctuel, mais en fait on s'est rendu compte qu'il fallait quand même revenir assez régulièrement dans les endroits pour mettre les personnes en confiance. Ce qui marche très bien avec le van, c'est qu'on apporte de l'information à des personnes qui vont prendre cette information et l'amener à des personnes de leur entourage qui peuvent en avoir besoin, voilà, une fille, une mère, une tante, une cousine, enfin voilà. Mais pour toucher concrètement les personnes qui sont en difficulté, là, il faut, on s'est rendu compte qu'il fallait revenir plusieurs fois au même endroit, instaurer un lien de confiance avec les gens du village, avec on allait souvent dans les marchés, donc avec les commerçants des marchés, etc.
À côté d'elle, il y a Jeanne Ferru, elle est volontaire en service civique depuis quelques mois, et Lily Triboulet-Maté, titulaire d'un master de sociologie, elle est chargée de projet pour ce van itinérant, et c'est elles deux qui prennent la route.
Touché, parce que nous, avec le van, on essaie d'aller d'abord dans les territoires enclavés, donc les territoires ruraux et les quartiers prioritaires des politiques de la ville, qui sont des territoires plus renfermés sur eux-mêmes en règle générale, quand bien même c'est une définition très généraliste et globalisante.
Les interventions en milieu rural débutent surtout à partir de mars, lorsque les conditions météo permettent d'être à l'extérieur. En février, elles se déroulent plutôt en intérieur.
C'était le cas le 11 février au Biocop de Lons-le-Saunier dans le Jura. Dans ces petites villes, ce sont souvent des habitants des zones rurales environnantes qui viennent faire leurs courses. Des stickers, des prospectus ou encore des dépliants, l'installation est en cours.
J'ai un parcours où j'étais sage-femme avant.
D'accord.
Voilà. Là, je suis en reversion professionnelle vers l'enfance.
D'accord.
En faisant un CAP petite enfance.
D'accord.
et d'éducatrice Montessori.
D'accord, oh, super.
Donc voilà, c'est super intéressant. Vous faites quoi exactement?
Notre mission principale, c'est de faire de l'accès aux droits, mais de manière globale sur tous les droits qui existent. Si à un moment donné dans votre vie, vous avez un problème qui relève du droit, vous pouvez vous tourner vers un CIDFF. Et l'accompagnement est gratuit et confidentiel. Et on est également une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les violences intrafamiliales.
Ouais.
Et du coup, on essaye, nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire connaître les CIDFF.
Ouais, c'est intéressant parce que moi, du coup, je suis en lien avec plein de familles.
Ouais.
Je vais en prendre un si c'est possible.
Plusieurs si jamais vous voulez comme ça les donner aux personnes quand elles viennent.
Vous en avez beaucoup ?
Oui, on en a beaucoup.
Ah oui, donc je peux en avoir pas mal.
Oui, oui, bien
oui,
sûr.
Bah, alors pourquoi pas ? Eh bien, écoutez. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et puis,
merci
pour cet échange.
Merci à vous d'être passé, votre
question. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Ici, la parole circule, mais elle circule beaucoup autour des violences. Sur le côté du stand, un kakémono attire l'attention, le violentomètre. C'est un outil de prévention qui classe différentes situations relationnelles du vert au rouge. En vert, des comportements respectueux, en orange, des attitudes de contrôle, d'humiliation ou encore d'isolement. Et en rouge, des violences caractérisées, qu'elles soient psychologiques, économiques, sexuelles ou physiques.
Ça permet en fait d'avoir un faisceau d'indices pour savoir si soi-même on est dans une relation qui commence à être violente ou si des amis ou des proches commencent à être dans une relation qui est plus saine.
Vous avez souffert de choses comme ça?
Moi, oui.
Oh.
Ouais, oui.
Juste un truc. Comment vous pouvez évaluer votre bienfait parmi les gens comme ça?
Vous savez, on ne peut pas.
Vous n'avez pas?
Non. Tout est confidentiel, donc et on est une association, donc nous, heureusement, on n'a pas d'objectif chiffré. On n'est pas une entreprise privée qui a besoin de savoir exactement quel impact l'action a eu. Nous, on a la chance de pas avoir de rentabilité économique derrière. Donc nous, si on touche une personne, c'est rentable.
Ouais. Je suis émue, hein. Par contre, j'avais un cousin. Je l'ai haï toute ma vie. Je vois, t'isole. C'est dur.
En l'écoutant, les travaux de l'anthropologue Jeanne Favret-Sada me reviennent en tête. Dans Les mots, la mort, les sorts, elle raconte comment dans les campagnes, certaines souffrances ne trouvent pas toujours leur place dans les discours officiels. Pourtant, pour ceux qui les expriment, les mots comptent. Ce qui aide parfois, écrit-elle, ce n'est pas seulement un diagnostic ou une solution, c'est le fait de pouvoir parler. Avec ce projet, Nina et Simone, c'est peut-être aussi ça qui se joue. un endroit simple où l'on peut dire ce qui nous pèse et être écouté.
Au départ, ce van circulait uniquement dans le Jura. Aujourd'hui, c'est un seul van qui est déployé pour toute la Bourgogne-Franche-Comté. Son objectif reste le même, mais le projet se complique.
La difficulté principale, c'est la taille de la région, en vrai. J'ai fait des recherches récemment et en fait, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est une fois et demie plus grand que la Belgique.
Voilà.
Voilà,
mais j'ai fait,
voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, je trouverais ça hors sol qu'on me dise qu'il y a un van qui parcourt toute la Belgique, parce que ben, déjà, ça me paraît immense. Et en plus, ben, c'est des populations tellement différentes entre l'urbain, le rural, le très rural, la montagne, enfin tout, quoi. Tout peut être extrêmement différent.
Pendant la permanence à Lons-le-Saunier, on croise une adhérente au CIDFF, Francine.
Alors le CIDF, je le connais depuis longtemps, puisque ça fait pratiquement 20 ans que je suis adhérente au CIDF.
Ok. Et le van ?
Alors le van, je le connais parce que c'est le département du Jura et doit être un des premiers départements où le van a circulé. Et d'ailleurs, on regrette que, de ne plus l'avoir en ce moment. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à trouver des solutions. Bah, c'est les centres financières, les solutions, pour en avoir des nouveaux, en avoir plusieurs dans la région. Ah ben un seul pour toute une région, c'est absolument pas possible. La région, et si on veut vraiment aller vers, puisque maintenant on essaie d'aller vers et tout le monde s'essaye à ça, mais c'est difficile. Il faut avoir un minimum de matériel et de finances.
Vous pensez que c'est important ces initiatives comme ça d'aller vers le public?
Ah ben bien sûr, parce qu'il y a des femmes qui sont complètement isolées. Évidemment, en ville, on sait un peu plus, on connaît un peu, et encore, c'est même pas toujours évident. Mais quand on est dans des petits villages de campagne, c'est bien plus difficile d'avoir accès, déjà de connaître et d'avoir accès. Il y a hélas encore des femmes qui sont encore bien dépendantes de leur conjoint. Hein.
Certains chercheurs comme Shonda Schroeder ont montré que la proximité sociale en milieu rural peut renforcer la stigmatisation et empêcher les personnes de parler de leurs problèmes. L'isolement, lui, n'est pas qu'un sentiment, il a des effets concrets sur la santé et le bien-être. En France, 14% des habitants des communes rurales se sentent socialement isolés, contre 9% en ville.
Et je suis contente d'avoir fait votre connaissance.
Ah ben.
Pendant cette permanence, nous ne restons pas en retrait. Les passants discutent directement avec nous, même si les sujets abordés restent sensibles.
Moi, ça me parle un peu, parce que j'ai ma belle-sœur qui est un peu, qui subit un peu ça.
D'accord.
Et donc c'est vrai que, ouais, ça, ben, il a le total contrôle. Ouais. Il connaît son code. On sait qu'il regarde ses SMS et tout.
Ouais, ouais.
Donc c'est vrai qu'il y a un moment, je lui aurais bien envoyé un truc de ce genre-là et. On sait que ça se passe mal quand il tombe sur des trucs qui lui plaisent pas.
D'accord, ouais.
Et c'est vrai que quand il est avec nous, il est très sympa, très social, machin. Mais c'est vrai que leur tio, pendant longtemps, ils n'ont pas fait leur nuit, machin. Mmh. Et donc ouais,
maintenant, vous
ça
dites
pas
peut-être
mal de choses.
Ouais.
Ouais. Il y a pas mal de casse-cochés. Ouais. Mais c'est vrai qu'on essaye de l'amener progressivement. Déjà, elle a pris conscience des choses.
Ouais, ouais.
Elle en parle. Elle se rend compte que des fois, il essaye de la faire passer pour folle.
Ah ouais.
Même, ouais.
Et ben.
Qui lui fait croire. Ah ouais, c'est. Ouais, ouais. Ah oui, déjà, on est.
Ouais, ouais.
Ouais. Ah, puis il pète les plombs quand quelque chose lui déplaît.
Ouais.
Il en est là aussi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Il dit, je reste pour les enfants. C'est plutôt le contraire qu'il faudrait
faire. Ouais.
Jeanne et Lily sont parfois confrontées à des témoignages difficiles à entendre. On leur a donc demandé comment ils arrivaient à gérer cette situation.
Tu veux répondre ?
Oui. Alors, au début, je me suis dit que ça allait pouvoir être très dur. Et au final, on s'y prépare quand même à l'avance. Et ça se passe plutôt bien. On met aussi des barrières en amont pour ne pas être non plus trop impacté par les discours de certaines personnes. Mais c'est vrai, enfin, ça attire quand même beaucoup d'empathie pour la personne qui nous raconte des récits assez traumatiques.
Moi, j'ai pas été pour l'instant, ce qui m'a le plus heurté, c'est quand on a un mec au loin qui hurle que lui, il fait pire que tout ce qu'il a écrit sur le violentomètre. Ça a été vraiment super dur pour moi de l'entendre. Pour le coup, pour moi, ce qui est fatigant, c'est le travail en lui-même, qui est un travail en itinérance, où il y a des trajets, de la manutention, de l'adaptation en permanence au public, aux partenaires, à l'endroit où on arrive, aux collègues. Pour moi, c'est plutôt ça qui est fatigant et qui est prenant que d'écouter les personnes et où, en fait,
j'ai réussi à adopter une posture d'humilité en me disant que moi, j'étais pas là pour sauver les gens, j'étais là pour leur apporter ce que je peux leur apporter à l'instant T. Nous, on peut leur apporter des choses avec le van à l'instant T. Ce qu'on peut leur apporter, c'est une écoute inconditionnelle et non jugeante. On peut leur apporter des informations. On peut leur apporter un soutien. Et heureusement, on ne peut pas faire plus, en fait, parce qu'on ne pourrait pas tout faire. C'est pas notre travail d'accompagner les gens et de les soutenir au quotidien. C'est le travail d'autres professionnels qui, elles, ne sont pas sur le terrain comme nous, on l'est.
Et donc, généralement, un entretien... n'est pas timé, enfin vous prenez le temps, en fait,
ouais.
C'est ça.
Nous, on n'appelle même pas ça des entretiens, en fait, parce que pour moi, entretien, ça signifie que c'est cadré, que les personnes viennent potentiellement à une certaine heure, repartent à une autre, qu'on va aborder certaines choses spécifiques, etc., ou qu'il y a un but à la discussion, alors que nous, en vrai, on n'a pas tout ça. Si la personne, elle veut rester tout le long de la permanence avec nous devant le van et discuter tout le long de la pluie, du beau temps, etc., ben on est aussi là pour ça, quoi. Le seul but qu'on a à proprement parler de la discussion, c'est que la personne puisse avoir une information à la fin de la discussion, mais c'est tout, quoi.
Merci à Lily, Jeanne, Julie et nos interlocuteurs spontanés pour leur participation. À l'accompagnement, Clémence Alzard, Benoît Coquart et Jérôme Berthaud. À la technique, François Salisson.
Un podcast de Minéa Alimaïstorovitch et Manon Forêt que vous pouvez retrouver sur le site de Paplard.